les enjeux internationaux.
6h50, bonjour Thierry Gassin.
Et bonjour Guillaume Erner. Donc comme prévu, on reste en Chine avec notre invité Claude Meyer. Bonjour.
Bonjour.
Vous enseignez à Sciences Po, vous êtes économiste, vous avez beaucoup publié sur les économies asiatiques en général, la chinoise en particulier. Alors j'ai pris comme titre, mais vous pouvez le contester, faut-il relativiser la mauvaise santé de l'économie chinoise? Est-ce que c'est vraiment une mauvaise santé? Est-ce que c'est un ressac? Est-ce que c'est un ralentissement? Comment caractériser cette période? Et puis quelle est aussi la marge de manœuvre des autorités? Est-ce qu'il faut voir tout cela à court terme ou au contraire un peu plus dans le moyen terme? Vous allez nous éclairer. On va beaucoup parler de toutes ces questions, évidemment, lors du G20 au niveau des ministres des Finances à Shanghai il y a quelques jours. Alors déjà, une question de méthode. Quel est le terme que vous retenez pour le moment actuel?
Je dirais une remise en perspective par rapport à un ralentissement marqué qui est interprété de deux manières possibles. La première, qui est l'approche pessimiste, c'est de dire en substance, regardez, tous les indicateurs sont au rouge, quasiment. La fête est finie, la croissance chinoise a été gonflée par le surinvestissement et le surendettement, et donc maintenant on a une croissance qui est bien inférieure à ce qu'on nous annonce. La perspective la plus réaliste, qui a ma préférence, c'est de dire primo que le ralentissement de la Chine actuelle est quelque chose qui est assez logique et qui a été relativement anticipé, peut-être pas avec autant de force, pour un certain nombre de raisons. D'une part, l'effet de rattrapage est quasi épuisé, les investissements, leur rendement est décroissant, l'exode rural est plus faible, sachant que la productivité d'un ouvrier est 4 fois supérieure à celle d'un paysan. Ça, c'est le premier point. Le second, une pyramide des âges qui est défavorable, à cause de la politique de l'enfant unique, ce qui fait qu'on a maintenant une population active qui diminue, donc mécaniquement le PIB diminue également. Et une compétitivité au niveau des coûts qui est largement dégradée, puisqu'on a eu un triplement des salaires en 10 ans, ce qui fait qu'un certain nombre d'entreprises chinoises délocalisent elles-mêmes maintenant en Asie du Sud-Est. Alors ça, c'est dans un contexte de transition, mais d'une transition qui est beaucoup plus difficile qu'annoncée. Quelle est cette transition? C'est de passer d'une économie qui était largement tirée par les investissements et les exportations vers une économie tirée par l'innovation et concentrée sur le marché intérieur, consommation,
demande service. Intérieure.
Voilà. Le second aspect, c'est de passer d'une économie administrée à une économie où le marché joue son rôle, joue pleinement son rôle. Et cela, la transition est beaucoup plus difficile, notamment pour des raisons politiques et sociales, à savoir que le pouvoir a peur un peu de l'instabilité sociale, donc il va très lentement au niveau de certaines réformes.
Pour l'instabilité sociale, on pense évidemment à ceux qui protestent les premiers, ce sont les classes moyennes généralement, puisqu'on touche là leur portefeuille, elles se sont endettées, etc.
Tout à fait, mais aussi au niveau, et on vient d'en parler, des révisions déchirantes qu'il va y avoir dans le secteur public. Et cette question des entreprises d'État est absolument centrale.
Qui se sont endettées avec, au fond, la permission, même l'accord de l'État, et qui ne recouvrent, les créances ne seront pas recouvrées.
Bien sûr, alors ça c'est la conséquence directe de la politique qui a été menée au moment de la crise financière 2008-2009. Où effectivement la Chine a maintenu un taux de croissance absolument remarquable malgré la récession mondiale, mais cela à coup avec un plan de relance qui était de l'ordre de 600 milliards d'euros. Donc tout ça a été financé par les banques et en priorité vis-à-vis des entreprises d'État.
Claude Meyer, juste une petite parenthèse, mais elle est importante, y compris pour nos amis auditeurs, la question des chiffres, quelle fiabilité leur accorder. Alors les uns disent qu'on est à 6,8% évidemment de croissance, d'autres que c'est beaucoup moins. On entend de certains économistes français qui disent mais c'est encore moins que moins. Alors bref, le non-spécialiste est perdu.
Oui, effectivement. Et même le spécialiste, parfois. Parce que le débat est d'une très grande complexité. Dès qu'on touche au problème des statistiques, y compris avec les changements qu'on peut observer, une forme d'ubérisation de la société, etc., comment on prend en compte les services, etc., dans la détermination du PIB. Alors, la méfiance qu'on a vis-à-vis des chiffres de la Chine tient aux éléments suivants. C'est que il y a parfois des décalages entre, je dirais, le chiffre annoncé, par exemple 6,9% l'an dernier, par rapport à un certain nombre d'autres indicateurs, notamment la consommation d'électricité. Ça, c'est le premier point. Le second, c'est le miracle, d'une manière générale, d'un chiffre en fin d'année qui arrive pratiquement au niveau de la cible. Ce qui porte ce qui pousse un certain nombre d'économistes, à travers des modèles économétriques complexes, à dire, écoutez, la croissance n'est pas de 6-7%, elle est plutôt de 2-3%.
Et votre point de vue personnel, alors ?
Écoutez, moi, je me range plutôt dans l'avis de la moyenne des analystes, donc je ne prends pas trop de risques, qui tourne autour de entre 5 et 6%. Sans oublier quand même, parce que là, on est dans des pourcentages, mais si on prend les chiffres absolus, ça représente quand même chaque année ce qui s'ajoute au PIB de la Chine, c'est le PIB de la Suisse. C'est quand même pas rien. Et on ne peut quand même pas rêver d'une croissance à 10%. On l'a eu pendant 30 ans en Chine. On ne peut pas rêver à 50 ans ou à un siècle.
Alors, quelle est la marge de manœuvre des autorités aujourd'hui ?
Eh bien, les marges de manœuvre, d'une certaine façon, elles ont été annoncées justement au moment du congrès des délégués. C'est d'abord la cible de croissance, c'est entre 6,5% et 7%. Et la marge de manœuvre, pardon, il tape beaucoup sur une politique de l'offre et une politique de développement de l'innovation. Donc, on va creuser le déficit budgétaire à 3%, ce qui, pour nous, quand même, semble encore assez raisonnable. On va, malheureusement, continuer à investir dans des infrastructures classiques, routes, ports. Et je regrette, pour ma part, que l'élargissement et l'approfondissement de la protection sociale, qui contribuerait beaucoup à la relance, on n'en parle pas tellement. Et puis, donc, déficit budgétaire pour financer, en effet, les restructurations des entreprises zombies dont on vient de parler. Alors, les marges de manœuvre, elles sont quand même relativement étroites, y compris en raison du régime économico-politique en Chine. C'est-à-dire que le Parti communiste a quand même beaucoup de mal à laisser la bride sur l'économie dans un certain nombre de domaines. On l'a vu l'été dernier, en janvier encore, au niveau de la crise boursière ou sur le niveau du yuan, etc. Donc l'idéal est affiché, c'est une économie qui n'est plus administrée avec un rôle du marché important. Dans la réalité, on a un pas en avant, deux pas en arrière relativement fréquemment.
Oui, c'est vrai, c'est sur le plan économique un régime autoritaire.
Absolument.
Voilà, mais écoutez, merci de cette classe, il faudra revenir parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire, et notamment sur la relation entre les autorités et ce besoin d'acheter la paix sociale.
C'est ça.
Voilà, alors merci, je rappelle que vous avez beaucoup publié, on trouvera les références sur notre site internet Claude Meyer et franceculture.fr, donc pour télécharger l'émission et pour la réécouter, bien entendu.
Merci beaucoup Thierry Garcin, à demain.